Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonsoir. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-François Mignard, ex-secrétaire national de la Ligue des droits de l'homme, mais toujours combattant et adhérent à la Ligue des droits de l'homme, Pierre Larouille, économiste, essayiste, et bien d'autres choses encore que, pour ne pas froisser sa modestie, je ne citerai pas. Alors aujourd'hui, nous avons mis à l'ordre du jour au moins trois sujets. Et on va parler des paradis fiscaux, on va parler de l'Iran, on va parler de la Russie, vous verrez comment et pourquoi. Et nous allons bien sûr commencer par le premier, ce qui paraît quand même assez logique, les paradis fiscaux. Alors tout le monde peut le constater, l'État a un pressant besoin d'argent, peut-être aussi de se réformer, de mieux utiliser les ressources qui sont les siennes et qui proviennent en grande partie de nos impôts. L'adaptation des moyens aux revenus et aux besoins dans une société qui évolue aussi vite que la nôtre est indispensable. Elle passe par la réforme, qui est toujours difficile à réaliser envers des machines aussi complexes que celles qui régissent la vie quotidienne des Français, lesquelles sont aussi des indécrottables immobilistes et des raisonneurs impénitents. La résistance au changement est une intangible donnée qui a fait échouer bien des réformes nécessaires ou à tout le moins les a privées de leur efficacité. Charles Darwin l'a dit, celui qui n'évolue pas aussi fort et intelligent soit-il est condamné à disparaître. Il nous faut donc nous réformer, mais il faut aussi que nous ayons les moyens d'y parvenir et de faire que l'action de l'État et des collectivités locales ne soit pas continuellement freinée par des soucis de financement. Pour cela, il faut lever l'impôt, un impôt juste, certes, c'est-à-dire celui qui a été voté par le Parlement, mais surtout tout l'impôt. Ce qui veut dire qu'il est intolérable que certains, et bien évidemment ceux qui disposent des revenus les plus importants, échappent en partie ou en totalité à leurs obligations fiscales. Citation. Les puissants capitalistes habitués à des placements extérieurs ont beaucoup plus de facilité pour dissimuler une part considérable de leurs actifs que les gens de qualité moyenne ou très modeste, qui l'a dit. C'est pas moi, bien sûr, je me tourne, moi, personne ne sait, dans le studio, c'est de bonne heure. Les petits neurones ne sont pas encore en activité. Alors, c'est une phrase qui a été prononcée le 12 juin 1912 par quelqu'un qui connaissait un peu le sujet, qui s'appelait Jean Jaurès, bien sûr. Et force est de reconnaître qu'un siècle après que cette phrase ait été prononcée, rien n'a changé. Nos sociétés qui se veulent modernes sont rongées par un cancer qui est celui de l'évasion fiscale et donc de ce que l'on appelle les paradis fiscaux qui servent aussi bien à mettre hors de portée de l'impôt des sommes considérables comme à blanchir de l'argent sale provenant de tous les trafics imaginables. Ce devait être la préoccupation première de tous les politiques, quasiment une cause nationale. Oh, certes, ils en parlent tous, mais pour brasser du vent, proférer de grandes déclarations solennelles qui sonnent bien dans une campagne ou dans des moments de tension politique, mais qui, malheureusement, ne sont suivis d'aucune mesure concrète. Et le soufflet retombe, silence des politiques et d'une presse que nous savons aux mains des puissances d'argent, hélas, dans ce que nous continuons, certainement par habitude, si ce n'est par lassitude, d'appeler notre démocratie. Et pendant ce temps, la fraude continue à grande échelle. Ils n'étaient pas le seul, ils l'ont tous fait avant et après lui, mais souvenez-vous de Sarkozy, alors au pouvoir, et pas encore en train de faire des ménages à la banque Goldman Sachs, d'affirmer crânement, et je le cite, « les paradis fiscaux, c'est fini ». Une belle phrase reprise en cœur par toute la presse, mais en coulisses, les affaires continuaient et continuent de plus belle. Alors heureusement, cette presse que je critiquais il y a un instant a parfois des sursauts de ceux qui sont l'honneur d'une profession quelque peu bousculé, pour ne pas dire en péril aujourd'hui. Et ceci nous ont donné, avec l'appui de courageux lanceurs d'alerte, des Swiss Leaks, LuxLeaks, des Panama Papers, des Assange, des Snowden, et j'en passe. Mais si cela s'appelle du beau boulot, ce n'est pas suffisant. L'édifice de la fraude frémit, mais ne tombe pas, et les virements offshore se poursuivent allègrement. Avec des exemples qui viennent d'en haut, des politiques, des dirigeants de certains pays qui, pour les plus extrémistes, et non des moindres d'ailleurs, font exécuter ceux qui dénoncent leurs manœuvres, journalistes compris. L'Europe est verrouillée par un président au matoufère des banquiers du Luxembourg, plaque tournante de l'évasion fiscale, passablement aidé en cela par un ancien hiérarque socialiste, aujourd'hui commissaire européen en charge de la fiscalité, et qui raconte beaucoup de bêtises, alors que l'homme est quand même extrêmement intelligent, mais passons. Alors pour conclure cette introduction, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un fin connaisseur de la chose, le journaliste Denis Robert. Vous vous souvenez de Denis Robert, hein, dans un article du Nouveau Magazine Littéraire, il écrit ceci. Le financement offshore est l'ultime perfusion du capitalisme. On réduit les salaires, on désindustrialise, on achète les élus à coup de financement politique, on paupérise, on ubérise. On finit esclave chez les jolis high-tech, McDonald's, Starbucks, Amazon, nos modernes Thénardier. Plutôt que de nous révolter devant tant d'inégalités, d'interdire les transactions vers ces paradis, nous fermons les yeux, le PSG, les écrans plats, les abonnements SFR, l'iPhone 10, les paris sportifs, les somnifères. Nous sommes otages d'un système qui a réussi son entreprise de désensibilisation de masse. Nous avons peur du vide. Fin de citation. Voilà, alors on va revenir sur cette question, messieurs, les paradis fiscaux, l'inaction des politiques, le besoin cruel de financement de notre pays, qui voit passer à sa barbe des paquets de fric qui vont se mettre bien loin de portée du fixe français. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Pierre Larrouille?
Oui, je veux bien, c'est un sujet facile, donc il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de mal avec ce sujet parce que j'ai... La description est parfaite, est terrible, l'enjeu aussi. Et on se dit quand même, c'est quoi? Il y a un complot, ils sont tous d'accord, il n'y en a pas un qui veut faire bouger les choses, ils sont tous pourris, quoi. Alors moi j'ai un peu de mal avec ça quand même, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir. Il me semble qu'on est en fait devant un phénomène clair de la mondialisation, mais d'une mondialisation qui s'est faite sans être construite, qui s'est faite dans l'urgence, par la technique, finalement, et par-dessus des accords qui étaient des deals spécifiques de l'un ou de l'autre, voire des accords, d'ailleurs, bilatéraux, qui construisaient des mini-équilibres. Et en fait, comme d'habitude, quand il y a des deals, il y a de l'interstitiel, et dans l'interstitiel, comme ça ne peut pas être trop sur la place publique, il y a des gens qui se glissent. Et comme, évidemment, la confiture est bonne, il n'y a pas de raison de ne pas se structurer. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on parte réellement d'une volonté systématique du politique de protéger ou d'organiser tout ça. Je crois que le politique, il est victime aujourd'hui de l'incapacité à réguler un phénomène qui s'est mondialisé et une organisation quasi-mafieuse de l'interstitiel sur lequel il ne peut pas grand-chose parce qu'il est lui-même très dépendant de ses équilibres. Donc il ne s'agit pas de dédouaner quiconque, il s'agit de dire que je crois que c'est complexe, parce qu'en fait, sur ça comme sur plein de choses, ce que j'appelle le capitalisme financier, de financier et de virtuel, je crois qu'on est dans une véritable question de l'incapacité de régulation, et qui est d'ailleurs aujourd'hui un des enjeux de la social-démocratie.
Je vous trouve assez finalement gentil, parce que vous nous dites que c'est l'effet de la mondialisation, j'ai cité Jaurès. À l'époque de Jaurès, où la situation est exactement la même, on ne parlait pas de mondialisation. Et l'interstitiel, quand on est un interstice, par définition, c'est minuscule, c'est une petite faille. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus sur ce type de mesure. C'est plus une petite faille, c'est colossal.
Oui, Jean-Pierre, deux secondes.
Oui, oui, oui.
Je crois qu'il y a une vraie différence entre l'internationalisation et la mondialisation. Et je pense que réellement, le contexte a changé. Et l'interstitiel... c'est pas neutre, parce que l'interstitiel, je le prends en termes de structure, mais quand on voit le développement des transactions financières dans le monde par rapport aux transactions réelles dans le monde, là, pour le coup, les courbes divergent, et on a d'un côté 20%, multiplié par 20 en augmentation, et de l'autre côté multiplié par 2 sur 15 ans. Donc l'interstitiel porte de très lourds enjeux qui permettent quand même de construire des belles choses.
Jean-François Mignard.
Oui, d'abord pour dire que j'ai beaucoup apprécié l'introduction d'un Jacques Lavergne que je sens en forme en début 2018. même si...
Toussant et crachant, si voilà, vous me permettez, bien que ce soit paragoûtant, mais alors, après en forme, oui.
Et comme Pierre, je partage une bonne partie de ce qui a été dit. Alors voilà. Je suis pas économiste, hein, mais je risque peut-être d'enfoncer les portes ouvertes, mais après tout, de temps en temps, il faut peut-être le faire. On est peut-être à la limite là du discours, petit clin d'œil, des limites dues en même temps. Hein, quelque chose et en même temps autre chose.
La pensée complexe.
Voilà, la soi-disant pensée complexe qui se résumerait à du... Voilà. Il me semble que les paradis fiscaux sont le marqueur politique, économique, d'une aporie du discours, c'est-à-dire d'une contradiction qui était une contradiction insoluble. Ils vont structurellement, me semble-t-il, ils accompagnent un choix qui est celui du tout marché et qui est celui de toutes les marchandises. En gros, alors, je suis d'accord sur l'interstitiel, mais politiquement, l'interstitiel a été élargi. L'interstitiel, c'est ce qui n'est pas régulé. Au détour des années 70, Richard Nixon libéralise les taux de change et fait de l'argent une marchandise comme les autres. Et dépossède...
Il rend le dollar inconvertible, surtout ça, c'est pas
et au détriment, effectivement, du reste du monde, il institue les États-Unis comme étant la plaque tournante de l'économie qui est l'économie mondiale, avec un assentiment... Des décideurs de l'époque sans quasiment aucun contrôle international sur ce que deviennent les flux financiers. Voilà. À partir de là, l'interstitiel, en gros, c'est... Alors, je vais reprendre des éléments qui me font référence pour moi, qui sont ceux de François Morin. Hein, c'est en gros 30 méga banques dans le monde qui font ce qu'elles veulent, parce qu'effectivement, elles vont... Alors, elles font ce qu'elles veulent. Ça nous coûte très, très cher. Hein. Elles font ce qu'elles veulent parce qu'elles sont à la tête d'une économie casino dans laquelle ça fait circuler de l'argent. Et ça, alors, ça, on fait de l'argent avec de l'argent sur des bases qui sont des bases, par ailleurs, économiquement extrêmement toxiques. Hein, c'est-à-dire qu'on fabrique, comme ça, hein, une espèce de monnaie absolument démente on fabrique ce qu'on appelle les fonds pourris et on constitue des espaces qui sont des espaces dans lesquels on va planquer une partie qui est une partie de ce magot d'une pratique qui est une pratique qui, de mon point de vue, est terrible parce qu'elle est, elle est terrible à deux niveaux. Elle est terrible au niveau économique. Hein, Si on part sur une nouvelle bulle, on a eu un fusil à un coup qu'on a tiré hein, il y a de ça quelques années, et je ne sais pas trop comment... Il fallait sauver l'économie mondiale, on a sauvé l'économie mondiale, et on a continué à aider ces banques-là hein, à faire du profit. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux au niveau économique, c'est quelque chose d'extraordinairement destructeur au niveau politique, puisque ça a été dit dans l'introduction, après tout... À quoi sert le politique, puisque de toute manière, il est impuissant. C'est-à-dire, pourquoi voter pour des gens dont on a l'impression qu'ils n'ont aucun pouvoir par rapport à des décisions qui sont prises ailleurs, que l'économie se joue ailleurs, hein, et que les efforts de solidarité fondés sur des choix qui sont des choix politiques, on s'assoit dessus. Les politiques ne sont pas tous pourris, me semble-t-il. Il y en a, Jean-François,
je ne pense pas, et Pierre, je ne pense pas que ce soit un problème. On n'a pas dit que les politiques sont pourris.
Non, mais...
Certains sont corrompus dans certains pays, ce n'est pas le cas chez nous. Je me plais à l'imaginer, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas le job.
Non, bien sûr, mais alors la réponse que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il me semble qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que quand on choisit un modèle qui est un modèle économique libéral et ultra-libéral, eh bien derrière, on a structurellement les paradis fiscaux, sauf à ce que, d'une certaine manière, alors, c'est très général comme truc, mais ça demanderait à ce que le politique reprenne la main, et que le politique reprenne la main, c'est contradictoire avec une vision ultra-libérale de l'économie.
Pierre Laroui.
Une petite précision, parce que le problème, c'est qu'on glisse très vite, et Jean-François avait raison de citer Nixon et le problème de la convertibilité du dollar. Il y a quand même un truc qui a échappé ou qu'on fait semblant de ne pas voir, c'est qu'avant les fonds pourris, les Américains ont organisé un système absolument parfait qui s'appelle les Hedge Act. Donc il y a des banques dans le monde qui arrivent à créer du dollar, mais ce n'est pas le même dollar qu'aux États-Unis. Et comme vous le savez... un industriel américain qui irait se refinancer pour une activité interne aux États-Unis à l'extérieur dans une hedge act risque à peu près 20 à 30 ans de prison. Ça rigole pas du tout. Donc,
nous, on rigole,
il y a eu un dégoût.
Nous, on rigole par contre.
Donc, je pense que sur les débris de la Seconde Guerre, on a eu aussi une construction de ce qui annonçait les fonds pourris, c'est-à-dire un double marché, y compris sur la même monnaie, qui a permis quand même un certain nombre de dérives. Et là-dessus, effectivement, la mondialisation est venue ouvrir encore un deuxième pan, parce que, comme le dit très bien François Morel, le problème, c'est que plus on s'éloigne de l'économie réelle, cher Bernard-Marie, je pense à toi, et plus on est dans une économie strictement financière et d'échanges virtuels, plus évidemment il y a une énorme facilité de gonfler ces échanges factices sur des monnaies qui, en plus, ne sont plus gagées sur rien. Donc, ça revient, je crois qu'en fait, on est d'accord, on a quand même un véritable problème de la question de la régulation d'un système qui a échappé à tout le monde. Et pour tout dire, aujourd'hui, quand on attaque la technofinance, on ne sait pas ce qu'on attaque. Parce que je crois que l'attaquer idéologiquement, c'est se tromper. La technofinance, elle fait du fric, y compris avec des bonnes idées. Y compris avec des idées humanitaires. Si ça marche et si le marché est là, eh bien, ils font du fric avec ce marché-là.
On est en train de faire du marché avec le social aujourd'hui.
Exactement.
Voilà. On marchandise l'action sociale et en utilisant les règles. C'est là où il y a eu choix. Alors, là aussi, c'est un discours un peu, comment dire, incantatoire ou lyrique et tout ça. Ça renvoie au côté, me semble-t-il, du choix de société. C'est pour ça que le commissaire européen, si intelligent, fils de quelqu'un qui est encore plus intelligent que lui, en arrive à dire des choses qui sont des choses que... Le plus petit des gamins serait interpellé de l'entendre en disant mais il nous raconte quoi, c'est la chose est son contraire, voilà. Parce que je pense que c'est structurellement à un moment donné, quand on fait ce choix. Alors Sarkozy nous a vendu du, comme pour le reste d'ailleurs, c'est fini avec moi, ça va être réglé. Il a fait ça pour tout. Donc, mais Hollande qui était un peu moins fanfaron, est arrivé avec quelques timides idées sur. On pourrait peut-être, par exemple, diviser en deux l'activité bancaire, etc., etc. Et on voit ce que ça donne avec derrière un discours qui était un discours que les pragmatiques considèrent comme fondé, qui est de dire, de toute façon, c'est une économie ouverte, on ne peut pas s'amuser à réglementer, nous, à notre niveau, puisque de toute façon, ça partira ailleurs. La question étant que ça part ailleurs, déjà. Voilà. Et les paradis fiscaux, c'est le ça part ailleurs.
Je rebondis là-dessus, même si on s'éloigne un peu des paradis fiscaux. Finalement, quand on regarde le CICE, sur quoi Hollande est-il attaqué ? C'est que quand on mène une politique macro comme il l'a fait, on s'aperçoit que les plus grands profiteurs du système ne sont pas forcément ceux qu'on voudrait aider. Et donc, on a une difficulté dans la régulation social-démocrate à faire des actions qui seraient un peu ciblées. Et d'ailleurs, à ce propos, puisqu'on commente l'actualité, cher Jacques Lavergne, je vois que la République En Marche est en train de nouveau de lancer un grand truc sur l'épargne qu'il faudrait flécher vers les entreprises. Ça a été dit depuis longtemps. Je leur suggère une chose, pour que ça marche, il faudrait peut-être aller à l'endroit pour ne pas retomber dans les panneaux du CICE, où on est un peu plus proche et de l'épargne et des projets. Ça s'appelle les territoires et j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui fait partie du vocabulaire politique actuel. Jean-François ?
Non, rien, je suis effectivement...
Comment rien ?
Non, rien, je suis d'accord avec Pierre, mais c'est après... On est confronté à quelque chose, on est dans le dur là, je crois, du politique, quand on touche à cette question là, parce qu'encore une fois on ne peut pas imaginer, me semble-t-il, que la citoyenne et le citoyen, catégorie là aussi un peu de sociologie molle, puissent s'intéresser, s'engager de manière un peu raisonnable et raisonnée dans le jeu politique, quand effectivement il a sous ses yeux ce spectacle-là. Et il va tirer dans le tous pourri, effectivement. Voilà,
c'est... Oui, mais tous pourri, ok. Mais comment
non, vous... pardon. C'est avec le bémol que tu as pu mettre tout à l'heure, effectivement.
Comment vous expliquez que les services fiscaux, ils sont quand même pas très, très efficaces aujourd'hui ? C'est un peu comme l'action de la police face au développement des stupes. On est en train un peu de baisser les bras en se disant, moi j'ai entendu des magistrats, c'est bien placé ou des policiers.
policiers. Il faut dépénaliser, ça ne sert à rien. Oui, on a perdu la guerre, ça ne sert à rien de mobiliser autant de moyens pour avoir aussi peu de résultats. Finalement, dépénalisons et n'en parlons plus, on passera à autre chose. Comment vous expliquez que les services fiscaux, là, ils ne sont pas très, très ardents? Alors, c'est vrai que le fraudeur moyen qui va faire un montage un peu basique, un peu facile, un peu grossier, lui, va tomber facilement. Les gros ne tombent jamais et ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe. Par contre, les journalistes, y arrivent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, ils vont trouver les véritables acteurs et ils les révèlent. Comment se fait-il que les services fiscaux n'en soient pas capables? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nos services de renseignement, dont on voit qu'ils ne sont pas toujours brillants, parce que quand on les voit travailler, on se pose des questions, on se demande pourquoi on paye nos impôts, en tout cas pourquoi on les paye, on l'a vu avec Daesh et les autres, pourquoi on ne les utiliserait pas pour traquer la fraude fiscale, c'est-à-dire avec des moyens beaucoup plus durs et des moyens internationaux?
Je crois que c'est le même sujet que pour le terrorisme. On a quand même un vrai souci avec les réseaux, avec la virtualité des choses, et on voit bien que les trois quarts du temps, il y a effectivement des signes mous que l'on arrive à repérer, et il y a après de l'intervention humaine. On a l'impression que les lanceurs d'alerte, ils sont quand même en général bien informés, et évidemment qu'à partir du moment où on rentre dans un nœud d'information, on peut remonter. Il me semble que les services fiscaux ont des soucis juridiques quand ils partent de chez eux pour attaquer ces systèmes, que deuxièmement, ils ont un problème réellement technique, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous au niveau pour traiter les problèmes, on le voit encore une fois avec la complexité du problème terroriste. Donc c'est un phénomène complexe. J'ai la sensation que si l'on part, j'allais dire, depuis l'Hexagone pour essayer de remonter virtuellement ces choses, c'est assez compliqué. Et évidemment, les gens qui sont un peu plus éloignés, comme les lanceurs d'alerte, et qui partent soit de dénonciation, soit du point de chute, remontent plus facilement. Moi, à ce propos, je suis très troublé de ce qui se passe actuellement, parce qu'évidemment, c'est un sujet dont tout le monde ne parle, ou alors personne, qui sont les questions de cybersécurité. Enfin, je travaille avec quelques industriels aujourd'hui, donc je ne vais pas les citer, qui sont complètement paniqués parce qu'on voit des hackers tous les jours rentrer dans vos services, dans vos feuilles de soins, dans vos radios, ils remontent dans les hôpitaux. En fait, c'est extraordinaire. On voit des gens qui sont en train de traquer des personnalités connues dans leurs dossiers de santé. Je crois quand même qu'il y a une complexité là et de la sécurité de remonter. Et toujours, je crois, Jacques Lavergne, que vous vouliez aborder ce sujet un jour. C'est tout le problème de l'état d'urgence. C'est jusqu'où on va dans l'autorisation A. Et dès qu'on est face à ce monstre tentaculaire qui est quand même le réseau, c'est assez complexe.
Le problème de l'état d'urgence, c'est qu'on nous fait toujours de nouvelles règles beaucoup plus dures et qu'on n'utilise pas celles qui existent déjà et qui pourraient peut-être suffire, bien utilisées, intelligemment utilisées.
Je confirme qu'il est en forme.
Je ne vous le fais pas dire.
Oui, mais là,
je peux développer, mais ça va être long. On l'a déjà fait. Juste pour répondre sur la question pourquoi les services fiscaux se montrent si peu pugnaces et si peu efficaces. Honnêtement, j'ai pas de quoi le vérifier de manière pragmatique, quoi, je veux dire, de manière un peu correcte. Mais en dehors du moment électoral, là on a cité Sarkozy, on a cité Hollande, on pourrait en citer d'autres, en dehors du moment électoral, je pense par ailleurs ensuite que le fatalisme idéologique reprend le dessus, c'est-à-dire que, comme si d'une certaine façon, le paradis fiscal n'était pas un mal nécessaire au fonctionnement d'une économie qui, somme toute, il y a derrière toujours cette question-là.
Comme s'il disait que le cancer, finalement, c'est un mal nécessaire.
Oui, j'imagine que c'est... Et que c'est assez insupportable, encore une fois, politiquement, qu'on traque plutôt le entre guillemets RMiste, RSAiste, je ne sais plus si on dit aujourd'hui, par rapport au... Et puis parce qu'il y a par ailleurs, il y a une question qui est une question... C'est la question de la supranationalité, c'est-à-dire que pour travailler sur les paradis fiscaux, à un moment donné, il faut dépasser l'échelon. Alors tout à l'heure, on parlait de questions de territoire, de micro, mais de macro-territoire. Il faut effectivement passer à quelque chose qui est quelque chose dont nous sommes orphelins. Début 2008, c'est pas sympa de dire ça, au point de vue, mais dont un jour on va payer les choses très cher, c'est le fait qu'effectivement, il n'y a pas de... entre guillemets, de gouvernance internationale, voire supranationale, qui pourrait nous permettre
oui,
de...
Oui, moi, je vous trouve quand même assez indulgent. Les services fiscaux, ils ont, ils sont pas si mauvais que ça. Ils ont un code général des impôts qui est assez bien fait, qui est un très bel outil qu'on leur a offert.
Oui.
Après, ils ont tous les mêmes problèmes de toutes les administrations. Il manque de monde. Vous arrivez dans des centres des impôts aujourd'hui. Oui. Ah non, la porte est fermée, on peut même pas rentrer. On ne peut rentrer que les jours de visite. Bon, on a quand même ce problème. Il y a quand même un autre problème aussi, c'est qu'au niveau de l'Europe, j'évoquais le Luxembourg en démarrant. Au niveau de l'Europe, dans la mesure où on n'a pas une harmonisation des définitions d'assiette, parce qu'un impôt, qu'est-ce que c'est ? C'est une assiette et un taux. Hein. À partir du moment où on n'a pas une même définition de l'assiette et on n'a pas des taux harmonisés, ben on crée le Luxembourg, on crée l'Irlande, on crée des poches au sein même chez nous. Hein. Là, on parle de l'Europe, on ne va pas chercher des paradis ensoleillés.
Nous avons des paradis fiscaux chez nous.
Chez nous, on a ce qu'il faut chez nous. Comment vous expliquez que le Luxembourg peut se comporter comme notre État voyou ?
C'est là où je crois qu'il y a plein de sujets. Alors, Luxembourg, moi j'ai vécu ça, je ne sais pas, peut-être que vous avez une réponse, mais si on prend l'exemple de l'île Maurice, il y a un accord bilatéral entre la France et l'île Maurice qui visiblement correspond aussi à tout un ensemble dans l'océan Indien, peu importe les raisons qui ont... En tout cas, il y avait un accord fiscal. Aujourd'hui, je vois que l'île Maurice se retrouve dans les paradis fiscaux. Alors, à quel moment on glisse de l'un vers l'autre
la liste noire à la liste grise.
Voilà, c'est qui a été réformé il y a deux jours, hein, ou hier.
C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ouais.
Donc voilà, je crois qu'en fait, je crois que chaque fois qu'on dit quelque chose de global, après ça devient très compliqué, factuellement, mais ça c'est un problème de juriste. Je crois qu'en plus, il y a une complexité juridique de chaque accord qui est quand même pas négligeable. Hein.
Oui, alors moi sur la question qui est la question de l'Europe, là aussi, on se retrouve confronté à deux questions. D'une part, quand on voit que les décideurs, les gens qui sont aux responsabilités en Europe, pour certains, ils sont quasiment des figures emblématiques de la question des paradis fiscaux. Je pense au Luxembourg, voilà. C'est un signal politique qui montre quand même qu'il y a un problème de ce point de vue-là, sur la prise en compte et la visibilité de ces choses-là au niveau de l'Europe. Et la deuxième des choses, nous sommes bien entendu, me semble-t-il, ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, malade d'une Europe qui est une Europe qui n'a pas d'instance politique digne de ce nom, crucifiée entre d'une part des choix qui sont des choix idéologiques du côté du marché libre et régulé, mais de manière soft, et d'un autre côté, la revendication souverainiste qui est de dire on ne touche pas à la nation parce que c'est le verrou qui est le verrou. Voilà.
Mignard a raison. Enfin, on ne peut pas.
Ça démarre mal cette année.
On ne peut pas oublier qu'il y a certains pays qui sont rentrés dans la communauté européenne. Et dont on a subtilement oublié une bonne partie d'économie souterraine pour leur permettre d'être à la hauteur de l'entrée. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais qu'on construit beaucoup de choses sur des deals qui peuvent parfois, d'ailleurs, politiquement être justes sur l'instant. Le problème, c'est qu'après, quand le système s'autonomise et devient mondialisé...
C'est ça, le marché. C'est construire sur des deals, comme son nom l'indique.
Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que l'interstitiel, c'est quand même pas négligeable. Ouais. Et l'économie souterraine, on n'en parle plus, par exemple. Parce que l'économie n'est plus que souterraine, finalement.
Bon, ben, tout ça n'est pas très gai, si je comprends bien. Pour les Jeux Olympiques, on mobilise un pays, on fait une cause nationale, le président va taper la baballe, mettre des gants de boxe, faire de l'image.
Tout le monde la main dans la main.
Oui, oui, oui. Donc, paradis fiscaux, il y a eu, il y aura, et rien ne bougera. C'est ça, c'est votre conclusion ?
Non, je pense, mais c'est ça. On a devant nous cette question qui est la question, à un moment donné, de choix qui est de choix de société. Et encore une fois, je persiste à penser que les politiques et les décideurs sont impuissants au regard de ça, parce que le choix préalable qu'ils ont fait amène effectivement, forcément, du paradis fiscal. Ça renvoie à des choix qui sont des choix intérieurs à ça.
Non, je crois que c'est pas la fin. Je crois simplement qu'il y a, je l'ai déjà dit ici, je crois, une table virtuelle de la réorganisation monétaire mondiale, que pour l'instant elle est virtuelle, et qu'un jour ou l'autre, effectivement, il faudra faire un Bretton Woods du monde globalisé.
Attendons et espérons.
Oui, oui, mais pas qu'à temps. Non, je pense qu'il appartient à chacun, à l'endroit où il est, effectivement, d'y contribuer. Mais bon, c'est long. Hein.
Wait and see, comme diraient
nos amis anglo-saxons.
Je vous propose d'aborder le deuxième sujet que nous avions mis à l'ordre du jour, la situation en Iran. Donc, en une semaine, vous avez vu plus de 20 morts dans des manifestations en Iran. des manifestations parties de la ville sainte de Machad, je ne sais pas si je prononce bien, et qui deviennent de plus en plus violentes puisque la police essuie maintenant des tirs d'armes à feu. Ça s'est un peu calmé quand même. On a incendié aussi les locaux de la milice du régime, les Basidji, qui sont assez redoutables. Alors pourquoi tout cela ? Eh bien, augmentation du coût de la vie, prix de l'essence, du pain, des œufs, inflation galopante, chômage généralisé de la jeunesse, laquelle reproche d'ailleurs aux dirigeants leur engagement militaire sur différents fronts, et notamment en Syrie, et bien sûr les dépenses qui vont avec. Politique budgétaire rigoureuse du président réformateur, ou qui tente de l'être, Rouhani. Faillite des institutions illégales de crédit islamique qui ont publié sous l'ancien président de triste réputation Ahmadinejad et qui ont ruiné les épargnants. Et puis surtout, c'est la corruption généralisée des dirigeants et de leurs clans. Ce n'est pas les dirigeants eux-mêmes, ce sont des clans là-bas qui sont complètement corrompus. Même le guide suprême est mis en cause, puisqu'on a pu lire « Le pays vit comme des mendiants, le guide suprême vit comme Dieu ». C'est vrai qu'il s'en rapproche un peu, mais quand même. Le président Rouhani monte le ton, parle de fauteurs de troubles et de hors-la-loi. On fait bloquer le réseau Telegram, qui compte 40 millions d'utilisateurs quand même. Et on dénonce les ennemis de l'Iran. Comme toujours, hein, on rejette la faute un peu ailleurs. Alors, est-ce que c'est une révolte ou une révolution, selon une phrase qu'on a posée chez nous en son temps ? À voir. Et puis par ailleurs, il faut regarder l'extérieur et la politique extérieure. L'Iran mène une politique visant à en faire un pays dominant dans la région, un pays qui compte, avec lequel il faut compter au Moyen-Orient, un pays qui vise à prendre le leadership, un leadership que revendique également l'Arabie Saoudite, ce qui fait qu'aujourd'hui la ligne de partage de cette région n'est plus celle qu'on a connue pendant des années, voire des dizaines d'années, entre les pays arabes, tous groupés, et Israël, mais bien aujourd'hui entre les pays chiites, tels l'Iran, et les pays sunnites, tels l'Arabie Saoudite. Et ces pays sunnites n'ont eu aucune vergogne ces temps-ci pour un peu assouplir leurs alliances et se rapprocher sensiblement d'Israël. Et puis au milieu de tout ça, il y a le fameux accord international sur la prolifération du nucléaire en Iran et son éventuelle transformation en nucléaire militaire qui est dénoncé par Trump, lequel vraisemblablement le dénonce, c'est pas tellement ça qu'il vise, mais plutôt la politique expansionniste de l'Iran sur le Moyen-Orient, qui en inquiète plus d'un sur cette question, qui veut démarrer. Pierre Larouille.
Je vais démarrer, après je passerai la parole aux spécialistes, moi je ne connais pas grand-chose. Si ce n'est que, là pour le coup, quand on parle de l'Iran en même temps avec les Perses, ça marche très bien, on l'évoquait avant l'émission. Le fait que ça soit parti de Machad ne me rassure pas quand même. En général, ça part de Téhéran. Pour qui connaît un tout petit peu l'Iran, Machad, c'est quand même assez chaud sur le plan religieux. La proximité par ailleurs avec l'Afghanistan et tout ça permet à peu près tous les coups montés que l'on peut faire effectivement en soutien de désordres qu'on voudrait créer. Alors je ne dis pas pour autant que ces désordres sont complètement créés, je dis simplement que visiblement les mouvements progressistes, notamment de la jeunesse et notamment à Téhéran, n'ont pas énormément relayé malgré tout et structuré tout ça. Je crois qu'il y a là une preuve à la fois réelle et à la fois de communication que le bouclier qui a été mis autour de l'Iran commence à créer effectivement des facteurs de pauvreté, de précarité et tout ça. Donc il y a effectivement dans la population un ras-le-bol qu'on peut facilement exploiter. Je trouve quand même que la concomitance entre les déclarations de Trump là-dessus et ces mouvements n'est pas totalement négligeable. Et encore une fois, le fait que ça parte beaucoup des villes religieuses comme Machad, Qom et tout ça, n'est pas rassurant sur la compréhension que l'on a de ce qui s'est passé.
Ça veut dire que vous nous dites que Trump est derrière tout ça ? Les Américains seraient derrière une espèce de déstabilisation ?
Non, parce que alors, je ne suis pas du tout... Je crois que les choses sont toujours plus complexes que ça. Je crois qu'il y a une réalité de révolte, puisque c'était le terme que vous avez employé, au sein de la population, mais je pense qu'effectivement, à la fois les religieux et à la fois certains intérêts, et probablement les Américains, avaient en tout cas tout intérêt à ce que cette révolte arrive au bon moment et prenne un peu de relief.
C'est sûr que ça ne les a pas fait pleurer. Jean-François Mignard.
Oui, alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran. Pierre, il est plus que moi, je ne suis jamais allé, mais j'observe, comme on dit, les effets. D'abord, le constat, me semble-t-il, alors, fait un constat. Donc, l'analyse que je peux faire, donc toujours très... Bon, on est dans du... de l'instantané, d'une certaine manière. Il semblerait que ce mouvement de révolte n'ait pas pris, ou du moins à la mesure de ce qui a pu amener la vague de fond, quand même, on va dire, progressiste qu'on a connue en Iran, avec, à l'occasion, y compris des... De l'accession au pouvoir du nouveau président iranien. Donc on est c'est en train, semble-t-il, de se calmer. Après, c'est vrai, c'est assez évident, me semble-t-il, qu'aujourd'hui ce qui se passe en Iran, c'est d'une part des promesses non tenues, et économiquement, ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, et politiquement, au sens de les réformateurs. Non. Et le président lui-même, ce sur quoi il s'était fait élire, n'est pas au rendez-vous de ce qui a été annoncé. Avec une société, et ça peut-être que c'est important de le dire, parce que c'est pas que lié à ce qui se passe, mais c'est un élément pour essayer de comprendre ce qui se passe en Iran, qui n'est pas une société qui est une société féodale, l'Iran. Hein. Je veux dire, il me semble qu'il faut déconstruire souvent ce qui circule sur l'Iran. Moi, j'ai envie de dire deux choses. C'est une société avec une culture et une histoire politique, y compris.
Pays de 3000 ans d'âge, rappelons-le, voilà, c'est pas rien quand même.
Et puis qui a pesé d'une part historiquement et qui aujourd'hui a une population, a une jeunesse qui est une jeunesse extrêmement dynamique, qui se fait pas trop d'illusions sur éventuellement le discours idéologique, qui baisse un peu la tête, mais qui est quand même prise dans... Qui est prise dans quelque chose de l'ordre de la modernité et de la dynamique, donc. Et puis, donc ça, c'est un premier élément. Donc, je ne suis pas du tout sûr que même si c'est inquiétant, que la vague de fond réactionnaire soit quelque chose qui va se passer en Iran, mais parce qu'on a quand même, semble-t-il, là-dedans, des gens qui ont envie de... qui ont envie de voir le pays autrement. Deuxième chose aussi, l'Iran revendique, j'ai envie de dire légitimement, une place qui est la sienne dans cet espace-là. Et aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, et je partage là-dessus sur le fait que les États-Unis ne sont pas complètement innocents. Alors, il ne faut pas faire du complotisme ou des trucs comme ça, mais ce serait bien la première fois qu'ils seraient absents dans quelque chose comme ça, quand même, dans l'histoire.
Oui,
vraiment gros oubli de leur part, ce serait.
Oui, je pense qu'ils sont assez vigilants pour être quelque part derrière.
Voilà, ils sont,
comme on dit en Provence, à l'agachon.
À l'embuscade. Hein.
Voilà, tout à fait. Mais est-ce que le fait de ne pas tirer les conclusions de l'accord nucléaire qui a été signé et de ne pas lever les sanctions, ça paralyse de fait l'économie, ça paralyse l'action du président Rouhani.
Bien sûr, on reprend
de la main gauche ce qu'on a donné de la main droite. C'est complètement aberrant comme politique.
Bien sûr. Et je l'évoquerai éventuellement quand on parlera de la Russie, où il y a ce même phénomène-là. C'est les effets contre-productifs de ce genre de sanctions dont on voit dans l'histoire, qui sont quand même très, très souvent... Je veux dire, le boycott, le blocus ou des choses comme ça, c'est quand même une arme politiquement souvent à double tranchant. Et là, je ne suis pas sûr que devant, encore une fois, des revendications qu'on peut estimer légitimes, y compris les gens qui sont arrivés à ça, les partenaires internationaux de l'Iran, y compris sur le nucléaire, hein, on a quand même des positions, et nous sommes nous-mêmes des fois entraînés à prendre des positions qui sont des positions discutables, me semble-t-il.
Ouais. Oui, Pierre Larouille. Pardon, je m'éloigne à peine de l'Iran, mais en fait, c'est ça le sujet. En tout cas, moi, sur ces sujets-là, parce que c'est pas l'Iran, hein, c'est toute cette zone qui est déstabilisée, moi, je reviens toujours à un truc, c'est qu'on est passé de l'universalisme à la globalisation. On est en train on ne veut pas affronter le problème de la représentation. On envoie des images dans le monde, en temps réel, en faisant fi de ce qu'était l'universalisme et une certaine... Il y a, dans l'universalisme, me semble-t-il, il y a une certaine philosophie, il y a toujours du temps. Dans la globalisation, on a des valeurs marchandises, y compris les nôtres. Je disais au moment des Twin Towers que la photo de l'axe du mal, on l'a bien compris. Hein, c'était une photo fixe en noir et blanc, deux tours, deux avions, le bien, le mal. OK, mais nous, on envoie des images partout de ce que c'est le bonheur et ce que c'est le bien, Sauf qu'il n'y a aucune précaution oratoire. Hein. Et je pense qu'on ne mesure pas. J'ai discuté avec des gens qui sont en train de négocier à Paris sur la Syrie. Et tout le monde cache sous le tapis, mais ils disent c'est un sujet central. Parce qu'y compris des gens qui veulent un retour et des accords et tout ça, se posent quand même des problèmes de l'arrogance de l'image occidentale qui est véhiculée systématiquement. Alors ça, je crois que ça fait partie. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de monter sur les retours de la société numérique. Et celui-là est un phénomène majeur. Et je crois qu'on ne travaille pas assez sur ces conséquences-là.
On va essayer d'expliquer ça aux Yéménites, dont le pays est complètement à feu à sang, qui ne mangent plus, une partition colossale entre les sunnites et l'Arabie saoudite qui bombardent allègrement avec nos avions, rappelons-le, qui bombardent allègrement, et puis les chiites qui soutiennent l'autre faction. On va avoir un peu de mal à leur expliquer ça comme ça, quand même. Hein.
Moi, je n'explique rien. Je dis simplement qu'il y a un souci et que effectivement quand on en est dans les conséquences.
C'est un euphémisme, le souci.
Oui. Hein. Mais j'aime bien les euphémismes en fin de soirée. Non, mais je crois que derrière ça, évidemment que quand on déstructure les choses simples auxquelles les gens se raccrochent dans une société, très souvent, ça donne aux excès de la spiritualité, des moyens de mettre un peu plus de pression.
C'est évident que quand on parle d'axe du mal, au nom de la démocratie, les ultra-religieux sont très contents parce que ce discours-là, ils le connaissent, ils le pratiquent, il est même structurel chez eux. Voilà, ça c'est clair.
Cette nouvelle ligne de partage que j'évoquais tout à l'heure dans le Moyen-Orient, entre sunnites et chiites, finalement, avec les Israéliens liés aux sunnites, ça vous inspire quoi ? Grand silence Jean-François.
Oui, je vais. Ça m'inspire de la perplexité parce que je. Enfin, quand je dis la perplexité, c'est c'est des sentiments partagés. La référence ethnique, on va le dire comme ça, ethnico-religieuse, est une référence qui, je crois, fonctionne. J'ai par ailleurs un petit bout de formation d'ethnologue, donc ça me parle, cette affaire. Voilà. Et notamment, j'avais pas mal travaillé sur la question du religieux. Voilà. Je pense que le fait d'appartenir à la, entre guillemets, culture, là aussi, je suis très prudent, sunnite ou lingue, la communauté, la fratrie, la fraternité, voilà, tout ce qu'on veut, est quelque chose qui, aujourd'hui, est sur le devant de la scène, au détriment d'un certain nombre d'éléments de grille de lecture des phénomènes. Il ne faudrait pas, effectivement, je pense que là aussi, c'est des phénomènes qui sont des phénomènes complexes. Il faut, autant l'archéomarxisme qui a expliqué les divisions politiques autour des rapports qui sont des rapports de classe, n'ont pas forcément enrichi le débat et permis de tout comprendre, et y compris d'ailleurs de tout régler, on le voit. Parce qu'ils ont fait l'impasse sur ce genre de choses-là. Autant, à l'inverse, je pense que c'est des phénomènes qui sont des phénomènes effectivement contradictoires, qui font que, bien sûr, qu'il y a, on va avoir tendance à faire communauté entre le dominant chiite et le dominé chiite face au dominant dominé sunnite. Hein. On pourrait fonctionner comme ça avec ce référentiel, avec des tas de trucs. Et en même temps, ce sont des jeux qui sont des jeux complexes. Ça a été évoqué tout à l'heure. Si on se met effectivement à renvoyer des gens dans quelque chose de l'ordre du communautaire, il ne faut pas s'étonner que le communautaire fonctionne. Et là, on va avoir ces espèces de lignes de partage. Les anglo-saxons, et notamment les américains, fonctionnent comme ça quand même. Je veux dire, quand on regarde la géopolitique des anglo-saxons, la question du communautaire est quelque chose qu'ils ont relativement compris, peut-être plus que nous, sur le modèle républicain. Mais je pense que c'est un des éléments qui est une des composantes, mais pas le seul, effectivement, sur ce qui se passe.
C'est intéressant d'en savoir plus sur la diaspora chiite dans le monde. Oui.
Bon, il ira bien qui rira le dernier, hein, vous connaissez un proverbe. Nous allons passer à notre troisième sujet. Alors, Napoléon nous avait fait la retraite de Russie, Jean-François Mignard nous fait le retraité de Russie. Donc Jean-François Mignard, envoyé spécial d'Occitanie Première en Russie. Vous êtes revenu après une quinzaine de jours de ce pays que vous connaissez bien et vous êtes allé à de nombreuses reprises. Alors qu'est-ce que vous avez vu ? Quelle est l'ambiance et qu'est-ce qu'il faut en penser ? Comment la comprendre, cette Russie, aujourd'hui ?
Je vais parler du rapport qu'on peut avoir à la Russie ou que des Russes peuvent avoir à nous. Je pense que c'est plus c'est ça qui est peut-être un peu intéressant, avec une précaution oratoire. Les Russes, vous savez, c'est un truc, hein, Vladivostok, Saint-Pétersbourg, voilà, c'est Moscou, ce sont des mondes, c'est un monde de la Russie, voilà. Donc c'est, alors moi, j'ai rencontré essentiellement des gens qui me ressemblent, la surprise générale, plutôt classe moyenne, hein, donc on va parler de cela et des gens que j'ai vus ensuite de l'extérieur, dans le métro, dans les magasins, dans les spectacles, des choses comme ça. Une petite anecdote, je suis arrivé et voilà, vite fait, on est allé faire un tour. J'étais avec des amis qui ne connaissaient pas le pays. On est allé faire un tour sur la Place Rouge, bien entendu. Hein, et puis, on est allé manger dans un restaurant qui est dans le Goum, hein, qui est un très grand magasin face au Kremlin sur la Place Rouge. Et à côté de nous, il y avait des Russes. Hein, des Russes, vraiment, des Russes mal traditionnels, j'ai envie de dire, des gens d'une cinquantaine d'années, en costard et tout, qui mangeaient avec la bouteille vodka sur la table. C'était à la fois un peu caricatural et complètement proche de la réalité quand on connaît un peu la Russie. Et qui nous ont entendus parler français. Et qui nous ont bien sûr interpellés quand on est français en Russie. On se fait souvent interpeller en français.
Vous parlez la langue, Jean-François?
Je parle un peu la langue. J'étais avec une amie qui est une amie qui parle aussi bien le français que le russe. Hein, voilà. Donc,
ça me rappelle une chanson de je ne sais plus qui.
On est allé chez Pouchkine. On est allé chez Pouchkine. Voilà. Et ces Russes-là nous ont dit bienvenue français. Il y a quand même plutôt un rapport positif avec les Français. En disant, et on est très heureux que vous soyez chez nous, parce que on a l'impression que vous n'avez pas peur. Voilà, ce qui est. Et donc j'ai dit, mais non, alors, baragouinant un peu mon russe, moitié français, moitié russe, disant, mais pourquoi on aurait peur, hein? Il dit, parce que vous savez, on est pacifique, vous savez, on est. On est pacifique, on est fier de nous, mais on n'est pas dangereux. Voilà.
Ça en dit long quand même sur la façon dont ils pensent qu'on les voit.
Voilà, et ça en dit long sur la manière dont ils se voient eux-mêmes. Ce que je veux dire, moi, j'ai découvert, j'étais allé il y a 2 ans. Hein. J'y vais environ tous les ans ou tous les 2 ans en Russie. Donc, depuis une quinzaine d'années, donc il y a un peu d'épaisseur, comme ça, je vois passer l'historique. On a des gens, là, aujourd'hui en Russie, on a des gens qui sont fiers d'être russes. Alors. Là aussi, hein, encore une fois, les gens que j'ai rencontrés sont plutôt fiers d'être russes, alors qu'il y a quelques années, je ne percevais pas ce genre de choses-là, et qui sont très contents d'avoir un président de la République qui les rend fiers d'être russes, et qui sont dans un...
Ça ne les gêne pas quand même que ce soit un peu un potentat, que tout ça ne soit pas démocrate et qu'il soit président quasiment ta vie ?
De ce que j'ai vu, très peu, avec une espèce de discours de ces gens-là, qui est de dire... La démocratie est quand même pas quelque chose qui est très structurel chez nous. On est plutôt Emmanuel Todd parle de modèle familial communautaire autoritaire avec forte indépendance de la femme. Emmanuel Todd des fois est un peu excessif, mais il connaît bien la Russie quand même, ou du moins visiblement il connaît bien des gens qui connaissent bien les Russes. Voilà. Il y a très peu, je dois dire aujourd'hui, mais peut-être que ça va évoluer. J'ai rencontré très peu de gens qui sont gênés par le fait qu'ils soient dans un pays qui est un pays qui est mené par quelqu'un qui est quelqu'un d'autoritaire. Hein, parce que l'autorité, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, voire qui est revendiqué. Hein, et ils ne sont pas plus choqués que ça de manière majoritaire. Hein, par exemple, je pense qu'ils ne sont pas choqués, j'en parlerai. Il y en a qui doivent venir. Peut-être que j'en leur proposerai de venir si ça vous intéresse.
Absolument, oui. Voilà, oui.
Par exemple, hier, le ministre de la Culture vient d'interdire une pièce à Moscou, qui est une pièce franco-britannique d'ailleurs, hein, qui s'appelle La mort de Staline, qui est un truc qui se moquait un petit peu du petit père des peuples. Hein, ils viennent de l'interdire. Voilà. Et Ça passe. Je pense que pour le moment, ça passe. Pourquoi ? Alors, quelques éléments d'analyse. Parce que je crois qu'on a quand même maltraité d'une certaine manière, les Russes ces dernières années. Hein. On a, quand je dis « on », nous, on l'a fait mezzo voce, mais le monde, d'une certaine manière, a, là aussi, il y a des choix qui ont été faits, de trucs et tout. En gros, ils se sont sentis un petit peu méprisés, ostracisés. Hein, les sanctions occidentales liées à la crise, qui est la crise de l'Ukraine, est quelque chose qui est très, quasiment inaudible pour les Russes, qui ne comprennent pas, par exemple, qu'on leur reproche qu'ils aient récupéré la Crimée, qui, pour eux, est russe. Et quand vous allez en Crimée, j'y suis allé, effectivement, j'ai envie de dire, la Crimée est russe. Si tant est qu'on veuille s'attacher à ce genre de truc-là. On parlait tout à l'heure de communautaire et tout. Ça, le Donbass, c'est autre chose, hein, la manipulation de ce qui se passe voilà, sur l'est de l'Ukraine, un truc comme ça. Mais
ils ne comprennent pas le châtiment qu'on leur a infligé.
Non.
Et... crime et châtiment, donc c'est pas.
Non, crime et châtiment, pas, le côté slave, voilà, il est vraiment en forme. Voilà. Et pour le moment, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et
est-ce qu'ils sont quand même informés ou est-ce qu'en Russie, il n'y a pas d'organes de presse vraiment libres et qui vont dire les choses et donner peut-être le point de vue des Occidentaux?
Pour le moment, vous avez accès libre sur Internet. Hein, quand vous êtes à Moscou, c'est un peu plus compliqué. On se rend compte que la connexion est moins facile, là. Il y a deux ans. Hein, on est moins facilement sur les réseaux sociaux et tout, mais... alors bien sûr qu'il y a la propagande, je veux dire, hein, qui est en train d'arriver en France chez nous. Hein, on pourra le regarder, ça s'appelle Russia Today, ça s'appelle RT.
On en a beaucoup parlé. Voilà. Certains ont dit tout le mal qu'ils en pensaient.
Vous verrez ce que c'est que ce que voient effectivement les Russes. Mais ils sont pas les gens que je connais, par exemple, sont des gens qui sont plutôt des intellectuels et qui lisent les journaux, qui parlent le français souvent, qui lisent le français. Ou des trucs comme ça. Voilà, c'est un moment, j'ai l'impression, de l'histoire en ce moment qui est en train de se passer et qui fait que, bon, voilà, ils sont. Après, moi, je peux de manière un peu anecdotique parler du quotidien, mais ça, le côté exotique sympa de la Russie. J'invite les gens qui ont envie de rencontrer ce pays un peu. Des paysans et ces gens qui sont adorables, de manière dominante, hein, parce qu'ils ont gardé cette dimension-là de l'accueil que des fois, bon, voilà, ils ont la deuxième chose qu'on peut regarder et ce qui est plus inquiétante de mon point de vue, c'est que entre les très très riches et il y a en Russie des gens immensément riches, hein, voilà, les oligarques qui se sont réorganisés autour de Poutine, parce qu'on parle beaucoup de Poutine, mais c'est quand même toute une société qui est autour de Poutine, hein, et les classes, je parle là beaucoup de Moscou et de sa proximité, hein, faudrait aller...
vous parlez de Courchevel, c'est...
Ouais, oui, alors les Russes vont, bien sûr, ils vont à Courchevel.
Il n'y a pas besoin d'aller en Russie pour avoir des Russes, on va à Courchevel.
Non,
je
peux susurrer à quelques élus pyrénéens qui attendent, à ma connaissance, la manne des touristes russes, que vraiment, ils ne vont pas les voir arriver parce que c'est plutôt Courchevel, hein, et Avoriaz que le Saket. Voilà. Il y a un différentiel absolument, par ailleurs, je vais être rapide là-dessus, entre des très très riches et le russe moyen. Et ça... ça, c'est compliqué. Hein. Nous n'avons pas de classe moyenne supérieure riche en Russie. Nous avons des classes moyennes très moyennes, des gens pauvres et des gens très, très riches. Et on commence à sentir quelques tiraillements.
Bon, bien, nous allons suivre ça grâce à Jean-François Mignard, qui est devenu l'expert. Merci de ces impressions de voyage russe. Alors, je vous propose d'arriver à l'avant-dernière séquence de ce numéro de Ça va mieux. Et donc, évidemment, le Ça va mieux. En riant la parole, je la conserve. Vous savez qu'on bouffe, énormément, on bouffe mal, on bouffe trop, on gaspille beaucoup, beaucoup. Et j'ai vu une initiative des Danois qui se sont attaqués au gaspillage alimentaire et manifestement avec un grand succès. C'est quand même un problème de l'Europe. Et en 5 ans, le gaspillage alimentaire danois, avec des mesures appropriées sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous étendre, a baissé de 25% dans le pays. Et en 2012, les Danois ont jeté 47 kilos de nourriture au lieu de 63 les années avant. Donc c'est peut-être une initiative sur laquelle il conviendrait que nous réfléchissions, Pierre Larouille.
Très vite, moi je suis content, puisque je travaille depuis un certain temps, qu'enfin les comportements changent, que la télémédecine visiblement sont en train de se développer. Il y a vraiment un très grand besoin dans les territoires un peu isolés, mais aussi dans les centres-villes, et ça on le sait moins. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Et
notre médecine est grandement en déshérence aujourd'hui, nous le savons, et nous ne sommes plus à la pointe de la chose, en ayant pourtant un corps médical de qualité. Jean-François Mignard.
On a arrêté le projet de Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, je ne l'avais pas fait parce que je savais que quelqu'un le dirait.
Bien entendu. Alors, rapidement, je pense que c'est bien parce que je pense que c'est bien par rapport à la situation. J'ai aucun avis sur l'intérêt de Notre-Dame-des-Landes en tant qu'aéroport. Le Premier ministre, en même temps qu'il a annoncé ça, je pense que c'est bien parce que ça allait vraiment partir. C'était mal parti, cette affaire-là. Il a dit quelque chose et je pense que c'est mieux même que Notre-Dame, pour autant que ce soit suivi des faits, c'est qu'on va peut-être réfléchir à des modalités de fonctionnement de la décision publique dans notre pays, peut-être, puisqu'il est allé jusqu'à évoquer ça. C'est rare que je cite le Premier ministre ou que j'apprécie ce qu'il fait. Je le fais d'autant plus facilement. Et peut-être
ça
que
prouve votre honnêteté intellectuelle.
Ce qui va mieux, ce qui peut permettre d'aller encore au plus mieux, c'est qu'on travaille vraiment là-dessus. C'est qu'on arrête de prendre des décisions de manière absolument abrupte et de façon démente sur des années, pour des années, alors que... Voilà.
Remarquons quand même que ce sont grâce à certaines personnes, dit les zadistes, que beaucoup n'aiment pas, comme à Sivens d'ailleurs, qu'il y a eu une prise de conscience sur des grands projets qu'on tente de nous imposer. Il va y avoir la ligne Lyon-Turin aussi. Hein. Certains se sont battus, et notamment un auteur, un des meilleurs auteurs italiens, Ride Luca. Il y aura aussi des choses à dire. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sortent un peu du troupeau de moutons pour dire « Hop, il faudrait peut-être s'arrêter, regarder. » Des fois de façon violente, on n'a pas trop le choix. Parce que sinon, on se retrouverait avec des équipements dont on a nul besoin, mais qui vont engraisser certaines personnes.
On a pour le coup évité ça à Notre-Dame-des-Landes, la violence. Pour
dernière séquence, la séquence culturelle un peu brève. Hein, moi, un mot sur une belle revue. J'ai reçu ici, dans une autre émission, son fondateur et rédacteur en chef. C'est la revue Gibraltar de Santiago Mendieta, que vous devez connaître. Hein, une revue qui traite, très très bonne revue, très, très belle, hein, qui traite de tout ce qui a rapport avec la Méditerranée sur tous les plans d'aujourd'hui, d'hier. Et puis au menu, il y a des récits, des reportages, des BD. Et il y a une superbe présentation. C'est un beau cadeau même à faire, un abonnement à la revue Gibraltar. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Pierre Larouille.
Un formidable accrochage de César à Beaubourg, avec une pièce magnifique. Je dirais que la vision de Beaubourg est presque aussi belle que l'exposition de l'œuvre elle-même. Et puis il y a Derain à côté, vraiment deux très belles expos. On passe un très bon moment. Et comme quoi Beaubourg est quand même quelque chose d'important dans les...
Jean-François Mignard.
12 jours, le dernier film de Pardon, sur les fameux 12 jours qui sont la limite avant laquelle un juge de liberté de détention doit décider de la prolongation de l'hospitalisation d'office des gens en secteur psychiatrique. Film absolument magnifique, comme les films de Pardon, hein, qui filme très très bien les temps forts de notre réel, comme il dit, hein, dans tous les bons cinémas de Toulouse, demain à Saint-Girons, dans le cadre du Festival des droits de l'homme sur notre région. Voilà.
Eh bien, nous y serons, ou un certain nombre y sera, j'espère. Pierre Larouille, Jean-François Mignard, merci de cette participation. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation, et on l'en remercie, Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook d'Occitanie Première, ainsi que sur le site internet de celle-ci. Nous nous retrouverons bien sûr dans 15 jours pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Belle soirée à toutes et à tous.